Alouette Mag.
Alouette Mag,
le magazine de la rédaction d'Alouette.
Bonjour, je suis Alexandrine Douai. Si vous aimez les énigmes, si les blattes, araignées ou autres scorpions ne vous font pas peur, ou si sauter à l'élastique est pour vous un jeu d'enfant, suivez-moi pour ce troisième numéro d'Alouette Mag.
Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
Cette musique, vous la connaissez par cœur, non ? Mais si, évidemment, ce pom-pom, pom-pom, pom-pom caractéristique qui rythme les étés des téléspectateurs français depuis 30 ans. Il s'agit bien sûr du générique de Fort Boyard, l'émission de France 2 qui fête cette année ses 30 ans, ou plutôt sa 30e saison. C'est en effet le 7 juillet 1990 que le programme, aujourd'hui devenu culte, a vu le jour sur Antenne 2 à l'époque, avec aux commandes Patrice Lafont, l'animateur historique que nous avons contacté pour ce nouveau numéro d'Alouette Mag. Vous entendrez aussi Olivier Mine, ainsi qu'Anthony Laborde, alias Passe-Muraille. Mais d'abord, rencontre avec Stéphane Villain. Pour le président de Charente Tourisme et vice-président du conseil départemental de la Charente-Maritime, ce 30e anniversaire a bien évidemment une résonance toute particulière.
Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
Oui, le Fort Boyard, c'est vrai que c'est un monument emblématique. Je dis souvent que c'est la tour Eiffel de la Charente-Maritime. Vous savez, quand on vient dans ce département, une des premières choses que l'on souhaite voir, c'est le Fort Boyard. Alors, les petits-enfants demandent à leurs parents de le voir, mais aussi les parents, parce que comme l'émission a 30 ans, les trentenaires, bien sûr, les quadras, aujourd'hui, se rappellent du père Fourat, qui a un peu changé. C'est vrai que les émissions d'il y a 30 ans, avec celles d'aujourd'hui, sont pas tout à fait les mêmes, puisque maintenant, il y a vraiment la technologie est aussi rentrée, je dirais, au sein de l'émission. Mais ouais, c'est vrai que c'est un lieu magnifique et emblématique. C'est-à-dire que l'avantage du Fort Boyard, c'est qu'il reste énigmatique. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur quand on va le croiser. On ne sait pas si le père Fourat nous regarde de sa vigie, ou si les animaux sont encore, en fait, voilà, dans le fort, ou s'ils passent partout en train de courir dans les escaliers. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'on se fait, en fait, voilà, tout un film sans savoir vraiment ce qui s'y passe à l'intérieur. Ouais, c'est vrai que pour nous, c'est quelque chose d'assez exceptionnel que d'avoir ce fort. Et quelle promotion au niveau national comme international. C'est-à-dire que les gens, à la fin de l'émission, ils voient aussi des lieux, je dirais, spécifiques de la Charente-Maritime, les carrelés, la plage, les forêts. Enfin, parce que vous savez qu'au début et à la fin de chaque émission, on a un générique où la Charente-Maritime est représentée.
Effectivement, quand on arrive en Charente-Maritime, on a ce réflexe. On arrive en bord de mer et puis on a l'impression de le voir un peu partout, ce fort.
Il y en a même qui se confondent, parce qu'on a le fort Aynet qui est du côté plutôt gauche de l'île d'Aix, et puis après, bien sûr, le fort Boyard qui est à droite, et souvent les gens confondent les deux. Vous savez, le fort Boyard, il a été construit pour protéger le Pertuis entre l'île de Léron et puis plutôt le côté île d'Aix, voilà. Et quand il a été fini d'être construit, ben, il ne servait plus à rien parce que la portée des canons était beaucoup plus importante qu'au moment du début de sa construction. Pour nous, c'est quelque chose vraiment aujourd'hui qui est très très important, le fort. Et puis le département de la Charente-Maritime, avec Dominique Bussereau, est très attentif. Vous savez, c'est comme une pépite, c'est un joyau que l'on doit en fait entretenir en permanence. Et quand il y a un problème sur la couronne ou sur la vigie, le département finance très rapidement. Et alors là, de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut qu'on soit présent pour le rénover, l'entretenir bien sûr.
Ce fort aujourd'hui, vous le chouchoutez depuis sa construction. Alors là, ça remonte à quelques années. C'était sous Louis XIV, une construction qui a été abandonnée pour être reprise. Ensuite, ce fort a servi de prison, a servi de centre d'entraînement pendant la Seconde Guerre mondiale. Un monument qui a eu de multiples histoires, et puis il a été justement abandonné. Vous le chouchoutez aujourd'hui.
Bien sûr, on le chouchoute. Il a même été plateau de film, puisque vous savez que c'est donc Alain Delon et Lino Ventura dans Les Aventuriers avaient filmé à l'intérieur du fort nombre de scènes qui aujourd'hui sont cultes. Oui, on le chouchoute, on l'entretient. On a changé il n'y a pas très longtemps la plateforme d'accueil, justement avec les compresseurs pour qu'on puisse l'alimenter bien sûr en électricité, en eau. Vous savez, en fait, finalement, chaque cellule du Fort Boyard est une cellule qui est hyper équipée. On pourrait y faire le 20h de TF1 à l'intérieur de chaque cellule. C'est-à-dire qu'il y a un matos incroyable tout au long de l'année et qui reste à l'intérieur. Et c'est vrai que quand les techniciens arrivent, ils peuvent brancher immédiatement leur matos, c'est prêt, ça fonctionne, on tourne. Et ça, c'est important, effectivement, qu'ils soient entretenus. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de sable dans le rouage.
Le fort est très télégénique, est très cinégénique aussi. Vous parliez de ce film avec Alain Delon et Lino Ventura. Pour les habitants de Charente-Maritime, c'est aussi une énorme fierté.
Bien sûr, c'est une énorme fierté et on aime bien dire qu'en fait, il est chez nous. Quand on va à l'étranger, on parle de la Charente-Maritime, il ne situe pas trop. Mais on dit, mais vous savez, vous connaissez le Fort Boyard ? Ah bah oui, ben on est en face. C'est relativement simple. Et puis là, on va le mettre en scène aussi parce que pour ses 30 ans, on va éclairer en fait la vigie avec des lampes aux zénons et on va comme ça scintiller, un peu comme la Tour Eiffel, vous savez, quand vous allez à Paris, ben voilà, notre Tour Eiffel en Charente-Maritime va scintiller, on va la voir en fait de nos côtes et c'est un bel hommage qu'on lui rend ce fort parce qu'on lui doit beaucoup. J'espère que l'émission va continuer encore de nombreuses années parce que 30 ans, chaque année on me dit mais ça va s'arrêter et chaque année ça repart de plus belle.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avant et un après Fort Boyard pour le département, pour l'image du département, la fréquentation touristique?
Ben écoutez, je pense qu'on va surfer encore pendant longtemps sur le fort, l'image en fait de l'émission, parce que les gens, ben voilà, aiment bien quand même se rappeler, ils l'ont vu à la télé, ils veulent voir en fait ce fort, et donc j'imagine que dans les 10 ans qui vont venir, il y aura encore, on va surfer sur l'image du fort. Mais nous, on est déjà en train de prévoir l'avenir, c'est-à-dire que si jamais, bien sûr, l'émission s'arrêtait demain, il faudrait qu'on en fasse autre chose de ce fort. On a des idées, on a des choses en carton, mais j'en parle pas parce que pour le moment, voilà, on est encore, je dirais, dans l'euphorie d'abord, un, des 30 ans, et deux, de l'émission, qui fonctionne en France, mais qui fonctionne aussi à l'étranger. Cette année, on doit avoir quelque chose comme 10 pays étrangers qui vont filmer le fort, enfin, les émissions du Fort Boyard, un peu à leur sauce. Hein. C'est pas sûr que le Père Foura, quand il est question de la Russie, soit le même, que Passepartout, etc., soit dans l'émission, enfin, voilà. Ouais, c'est vrai qu'en dehors même de l'Hexagone, on parle du fort à l'étranger, et ça, quelle meilleure vitrine.
On peut dire que ce monsieur Jacques-Antoine, dans les années 80, célèbre producteur de jeux télé, a eu le nez fin en rachetant ce fort.
Oui, c'est le département qui l'a racheté. Et c'est Jacques-Antoine, à ce moment-là, c'était le président Belot, qui, en fait, se sont parlé, qui ont dit, bah, écoutez, voilà, on peut peut-être faire un deal. Vous, vous entretenez le fort, et moi, j'ai fait une émission à l'intérieur, j'ai fait un plateau de télévision exceptionnel. Et donc, ce deal a fonctionné, depuis maintenant, donc, plus de 30 ans. On peut remercier, et à la fois, Jacques-Antoine, qui a eu la belle idée, qui nous l'a proposé, et le président Belot qui l'a effectivement mis en avant.
Vous étiez, vous, Stéphane Villain, dans la politique déjà à cette époque-là. Est-ce que vous vous souvenez de cette époque ?
Non, c'est le maire de Châtelaillon actuel, Jean-Louis Léonard, qui m'en a parlé parce que lui, il était effectivement au fait même de cette décision avec les autres élus du moment. Donc moi, je suis arrivé en 2001, je suis arrivé un peu plus tard. C'est vrai que maintenant, puisque je fais la promotion, la communication de ce département, la première chose que je mets en avant, c'est bien sûr le fort. Donc, je peux remercier mes aînés.
Est-ce qu'il n'y avait pas, au tout départ, la peur de dénaturer l'image du fort, de donner une image un peu pittoresque ou allez, folklorique, on va dire, de la Charente-Maritime ?
Bah, j'imagine que quand ils ont pris cette décision, ils ne pensaient pas que ça allait être aussi, je dirais, important. Ils étaient visionnaires, hein, parce que vraiment, c'était un coup à tenter incroyable. C'est-à-dire que acheter un fort pour en faire un plateau de télévision en plein milieu de la mer, avec des accès difficiles, c'était quand même quelque chose qui n'était pas forcément joué d'avance. Et puis finalement, c'est une grande réussite. Alors oui, certainement que ça aurait pu être un fiasco. Bah, c'est une réussite, c'est pile ou face. D'ailleurs, quand je parle de pile ou face, j'ai vu que la monnaie de Paris venait en fait de poinçonner pour les 30 ans du fort une pièce à l'effigie donc, du Fort Boyard. Donc ça veut dire que là, c'est aussi une belle reconnaissance, non ?
On revient à l'idée de la Tour Eiffel de la Charente-Maritime.
C'est un lieu formidable. Combien de croisiéristes, de bateaux tournent autour en permanence ? Mais quand vous êtes sur le fort et que vous regardez en fait ce qui se passe autour, mais c'est considérable. Finalement, c'est une star. Une star qui est là, dormante, magnifique, emblématique. Il faut qu'on l'entretienne, il faut qu'elle continue à faire rêver à la fois les petits mais aussi les grands.
Les Français, tous les Français connaissent le Fort Boyard. Et puis vous le disiez aussi, beaucoup de nombreux pays étrangers connaissent le fort grâce à la déclinaison de l'émission dans une trentaine de pays.
Oui, c'est ça, depuis en fait le début, c'est à peu près une trentaine de pays qui ont filmé le fort. Alors, comme je le disais tout à l'heure, de façon un peu différente, hein, selon, je dirais, les pays. Mais cette année, ça doit être 10 pays qui sont venus sur le fort après les émissions françaises. On tourne finalement toutes les émissions, vous savez, la télévision, c'est magique, hein, mais en 3 semaines de temps, on a tourné pratiquement 2 mois d'émissions, avec même les prime time et les deuxièmes parties. Et bien là, juste après les émissions françaises, une fois qu'Olivier Mine est parti, c'est d'autres présentateurs qui arrivent, et donc c'est 10 à peu près pays qui se sont donné le relais, et on vient de terminer la semaine dernière les tournages, je crois, de nos amis de l'Azerbaïdjan. Et puis après, il y a eu la Russie, et puis il y a eu les pays scandinaves, la Finlande, etc., etc.
Est-ce que les Russes, est-ce que les habitants d'Azerbaïdjan, est-ce qu'ils viennent ensuite en Charente-Maritime après avoir vu l'émission ?
Oui, c'est vrai que c'est un vecteur de promotion touristique incroyable. C'est-à-dire qu'ils veulent le voir. Et il y a des gens marocains, russes, on en a parlé, scandinaves, qui viennent pour le fort. Ils viennent en Charente-Maritime, pourtant on a plein d'atouts, on a des belles choses en Charente-Maritime, mais ils demandent fatalement d'aller voir le fort. Donc oui, c'est un vrai vecteur de promotion.
Le tout premier animateur, Patrice Lafont, a déclaré récemment qu'au fil des ans, le fort avait perdu un peu de son mystère, de sa légende. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Non, moi je pense qu'au contraire, il a regagné, je dirais, en dynamisme. Parce que je le disais tout à l'heure, mais quand vous regardez le Fort Boyard d'il y a 30 ans et le Fort Boyard d'aujourd'hui, la technologie, mais c'est normal, les jeunes ont besoin d'effets spéciaux, ça peut pas être plan-plan. Donc fatalement, ça a changé la philosophie même des jeux. Mais moi, je suis admiratif, justement, de ceux qui conçoivent les jeux. Et là, tous les ans, ils font des nouvelles cellules qui réadaptent. Chaque fois, ça me passionne, moi, de regarder ça. Ça donne beaucoup d'énergie. C'est bien filmé, c'est cadencé. Je trouve qu'au contraire, elle a regagné, en fait, en souffle, en énergie. Et c'est pour ça que les enfants, il suffit de les regarder devant le Fort Boyard, ils aiment ça. Hein. Alors après, pour ceux qui s'en occupent, comme moi, comme certains de mes collègues, la famille, les petits-enfants demandent à y aller en permanence. Mais on fait comme pour tout le monde. Il est mystérieux. C'est un endroit, un sanctuaire où on ne va pas.
Pour préciser, ce fort, on ne peut pas le visiter.
On peut pas le visiter, et c'est bien comme ça. Mais quand vous savez pas ce qui s'y passe dedans, je parlais tout à l'heure des animaux, on sait pas s'ils sont là, on sait pas si le père Foura est là, ça reste mystérieux. Il y a une espèce de parfum de mystère qu'on aime bien finalement. Puis les enfants, on leur dit, d'ailleurs les animateurs à la bord des bateaux, ils leur disent peut-être que le père Foura va vous dire bonjour de la vigie, peut-être que les tigres sont là. Moi je pense qu'il faut pas qu'il soit ouvert au public. De toute façon, c'est trop compliqué. Pour monter sur le fort, c'est compliqué parce qu'on arrive avec un bateau, comme les stars d'ailleurs, hein, quand elles montent sur le fort, et on est en fait élitreillé. Il y a un grand panier qui nous accueille. Il y a une dizaine de personnes qui s'accrochent avec des mousquetons et on est élitreillé. La grue, donc, hop, voilà, vous emmène sur la plateforme et enfin, vous avez le droit au Graal. Mais avant cette première épreuve, il faut quand même monter avec cette nacelle. Donc, c'est compliqué. C'est pas facile. On pourrait pas dire demain, écoutez, ça y est, on ouvre le fort, il va y avoir 10 000 personnes qui vont passer dedans, c'est pas possible. D'ailleurs, quand il y a des visites de professionnels, de techniciens, de journalistes, il y a des hélicoptères en attente, il y a des médecins urgentistes, il y a un médecin in situ, enfin, le fort, il est protégé, mais aussi, on peut pas y aller quand on veut, quoi.
Il faudrait construire des accès, mettre en place toute une organisation, et ça dénaturerait complètement le fort.
Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas du tout envie de ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'il reste comme il est. Imaginez que demain, on mette des plateformes d'accueil à un port à côté du fort, ça n'aurait plus le même aspect. Non, c'est pas possible. Donc il va rester mystérieux. Enfin, encore quelques années, j'imagine.
Quelles activités, justement, vous proposez autour de ce fort ?
Des activités qu'on propose, mais écoutez, c'est... déjà, je viens de parler des croisiéristes, etc. Après, il y a eu, en fait, le Windsurf Challenge, qui, en fait, c'est des planches à voile qui partent de Foura et qui tourne autour, il y a des pirogues qui y vont, puis alors après il y a des jet skis, les croisières, c'est incroyable quand vous regardez, ça fait une espèce de tourbillon d'ailleurs autour du fort, tellement ils sont nombreux à passer, à croiser, à essayer d'apercevoir quelque chose finalement à l'intérieur.
Et tout ça aussi en appelant au respect du fort et de l'environnement du fort.
Je crois que c'est important, en fait, qu'on le respecte. C'est une vieille dame, un vieux monsieur plutôt. Un vieux monsieur qui est quand même entretenu régulièrement. Je peux vous dire qu'on lui fait des liftings. Le département investit grosso modo 200 000 euros par an de restauration dessus. C'est-à-dire que là, actuellement, il y avait un problème avec l'éperon, parce que c'est comme un gros vaisseau, finalement, le Fort Boyard. D'ailleurs, le capitaine a son espace, à l'intérieur du fort. Et l'éperon commençait à être sabordé, enfin bon, les pierres qui font la base du fort commençaient à s'éroder. Donc là, on est en train de regarder comment, justement, on va remettre tout ça à niveau, comment on va pouvoir le réparer. Et puis, la ceinture aussi, il y a des testeurs qui sont mis en place pour voir s'il y a des écartements de pierres, si tout est OK, quoi. On le surveille en permanence, c'est-à-dire qu'on est très attentif finalement à ces petits mots. Hein. Et c'est bien normal parce que, comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est un édifice du département, on doit l'entretenir. Et puis c'est aussi grâce à lui, en fait, aussi la promotion qu'on connaît, dont on décline depuis tout à l'heure.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un sur le fort ?
Il y a toujours quelqu'un sur le fort, durant surtout les périodes où il y a des tournages, où il y a un matos incroyable. Quand arrivent les mois de novembre, décembre, janvier, février, bon, il est possible qu'il n'y ait personne. Hein. Mais ça reste quand même, en général, il y a toujours un gardien. Enfin, quand arrivent les émissions, la préparation des émissions, même l'hivernage, on y va de temps en temps, on regarde comment il est. Voilà, les équipes du département de la Charente-Maritime, ils vont régulièrement, les techniciens, pour voir si tout est OK, quoi.
Pour revenir précisément à l'émission Fort Boyard, ça a lieu l'été. Est-ce que vous constatez une recrudescence du nombre de personnes qui réservent au moment de la diffusion de l'émission ?
Oui, c'est vrai que la Charente-Maritime, c'est un des premiers départements de France en termes d'accueil touristique. C'est 1,8 milliard de rentrées économiques par an, c'est 20 000 emplois, c'est 36 millions de nuitées, tout hébergement confondu, donc c'est très très important. Et je pense que le Fort Boyard fait partie justement de ses atouts majeurs. Et quand arrive l'émission, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui vont venir, notamment les mois de juillet, août, ne serait-ce que pour lui. Il y en a qui ne font rien d'autre que d'aller voir le Fort Boyard, et qui s'en vont, et qui vont voir d'autres, le Puy du Fou, magnifique en Vendée, ou le Futuroscope ou autre. Donc, oui, il y a des gens qui spécifiquement vont venir parce qu'il y a le fort. Comme on peut, il y en a qui vont aller à Paris pour voir la Tour Eiffel, comme il y en a qui vont aller au Mont-Saint-Michel pour voir le Mont-Saint-Michel.
Quel mot définirait le mieux le Fort Boyard ? Est-ce que vous y parliez de star, de mascotte ?
Emblématique, c'est une star. Une star, elle est entretenue, elle est liftée, elle est maquillée, c'est notre star.
Si vous deviez vous réincarner en personnage du fort, ce serait lequel ?
Moi je dirais, je suis pas grand, alors ça pourrait être Passepartout. Autrement, non, je pense, qu'est-ce que ça pourrait être ? Moi j'aimerais bien le présenter, j'aimerais bien être Olivier Mine, moi j'ai pas les mêmes muscles. En fait, finalement, je serais pas un personnage, je serais là pour en parler, je serais là pour le faire vivre, et puis je suis admiratif, moi, de ceux qui font les jeux, donc je pense que ça serait plutôt l'animateur.
Et justement, est-ce que vous avez un animateur préféré depuis le début de l'émission ?
J'aime beaucoup, en fait, Olivier Mine, que je connais par ailleurs, et qui est quelqu'un de gentil, d'humble, qui s'efface derrière la star qui est le fort, et qui est proche des gens. Il en parle bien de son fort, et je trouve que c'est bien que ça soit lui l'animateur.
Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
Direction maintenant la cabine abandonnée du fort. Au bout du fil, Patrice Laffont. L'animateur historique de l'émission, bientôt 79 printemps, est de retour pour la 30e saison, 20 ans après avoir quitté le programme. Un retour forcément émouvant.
C'est vrai que là, remettre mon costume, me retrouver en vigie, là où j'accompagnais souvent le père Fouras, tout ça m'a procuré vraiment de l'émotion et du plaisir, les deux. Je suis un peu cacochime dans l'émission, j'entends rien, je comprends plus rien, comme si j'avais été très malade, ce qui heureusement pour le moment n'est pas le cas, mais j'ai participé avec ça avec plaisir, j'ai retrouvé, bon, bien entendu, Olivier, toute l'équipe, le père Fouras, tous mes potes. J'ai passé 5 jours de rêve sur le fort.
Et Fort Boyard, toujours à la télé 30 ans après. C'est une surprise ?
On sait jamais, mais en même temps, je porte bonheur au programme. Donc, j'ai commencé les chiffres lettres, ils ont fait, on en est à la 40e année. J'ai fait 13 ans de pyramide, presque 10 ans de Fort Boyard. Et j'ai d'autres exemples aussi. Donc, je me suis dit dans ma petite vanité que quand je touchais quelque chose, les choix que je faisais étaient des choix de pif et qui étaient, que je devais avoir un bon pif. Je pensais pas qu'il me pensait que tout d'un coup, ça va faire 30 ans. Simplement, il y a des tas de facteurs, ils l'ont magnifiquement fait évoluer avec le temps. C'est plus vraiment la même émission qu'à mon époque, elle est modernisée, les tournages sont beaucoup plus sérieux. Voilà, et ça fait que 10 émissions par. C'est un vrai rendez-vous, c'est pas un rendez-vous qui lasse. On sait que pendant 10 émissions l'été, le samedi soir, claque fort meilleur. Et voilà.
Il est aujourd'hui l'homme fort de l'émission. Olivier Mine a répondu à nos questions entre deux tournages. Ce qui est sûr, c'est que Fort Boyard a été pour lui un véritable tournant dans sa carrière.
En tout cas, la marque Fort Boyard et mon rôle dans l'émission a quelque peu effacé tout ce que j'avais fait les années précédentes. C'est vrai que moi, j'ai commencé la télévision en 1987 à RTL Télévision en Belgique, puis après en France en 1990. Et c'est vrai que, grosso modo, c'est comme si ce que j'avais fait de 90 à 2003 n'avait jamais existé, ou presque. Donc, c'est vrai que Fort Boyard a changé beaucoup de choses de ce point de vue-là. La plupart du temps, les gens ne parlent que de Fort Boyard, pas du reste des émissions que j'ai pu faire. C'est vrai.
Pour cette saison, précisément, lors du tournage, est-ce qu'il y avait une ambiance particulière ?
Pas vraiment différente des autres années. J'entends par là qu'il y avait, la même envie, le même plaisir, la même une émotion aussi sans doute liée au fait aussi que Patrice Lafont était avec nous et que on retrouvait ainsi le maître du fort première version et donc forcément ça crée un sentiment de joie assez fort. Patrice est quelqu'un que j'aime énormément, donc c'est quelqu'un comme de ma famille. Donc j'étais particulièrement heureux de l'avoir auprès de moi, c'est sûr. Et puis le fait de se dire tous, punaise, ça fait quand même 30 ans que tout ça existe, c'était merveilleux. C'est merveilleux de s'imaginer ça.
30 ans pour Fort Boyard, et vous, vous avez signé pour combien de temps encore pour rester à l'animation?
Bah écoute, en tout cas, moi, je veux bien signer encore pour de très nombreuses années parce que je prends énormément de plaisir à présenter cette émission. Et voilà, après, vous savez bien, en télévision, c'est rarement l'animateur qui choisit, mais en tout cas, le temps que ça durera, je serai très heureux d'y être associé, ça c'est sûr.
Au vu des audiences, ça devrait bien se passer, je pense.
On croise les doigts. Pour le moment, c'est vrai que ça ne se passe pas trop mal.
Anthony Laborde, bonjour. On vous connaît mieux sous le nom de Passe-Muraille. Donc vous avez rejoint l'aventure, c'était en 2004.
Alors en 2004 pour les versions françaises, mais j'étais déjà sur Fort Boyard depuis les années 2000, où j'avais le rôle de passe-temps pour les versions étrangères.
Comment est-ce que vous avez débarqué au cœur du jeu? Est-ce que vous avez participé à un casting?
Un casting qui a été très simple pour moi, puisque je connaissais Passepartout depuis 1994. Et quand la production a proposé à Passepartout s'il connaissait un ami qui serait susceptible de bien vouloir faire Fort Boyard, il m'a appelé, il m'a dit: j'ai une proposition à faire, voilà, la production cherche un autre personnage, si tu es d'accord de passer un casting. Donc j'étais seul à ce casting, donc ça a été très facile pour moi, voilà. Et après quelques petites épreuves, il a fallu courir dans l'escalier, monter à la vigie, ça a été assez simple puisque j'avais 17 ans, donc j'étais très sportif à cette époque-là.
Les téléspectateurs les plus assidus auront remarqué qu'au fil des saisons, votre personnage a pris de plus en plus d'importance.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que Passe-Muraille a grandi, on va dire, à la télé, mais pour les enfants, il est devenu vraiment un copain qui vieillit, qui embête un peu les candidats. Donc c'est vrai qu'il a été tourné vraiment vers ses enfants, un public qu'on attendait sur Fort Boyard.
On a l'impression que tout le monde s'amuse beaucoup sur le tournage, toute l'équipe. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est assez sérieux finalement ?
Non, ça reste assez amusant puisque en fin de compte, nous on s'appelle la famille. Hein, voilà, on se retrouve tous les ans pour tourner ces émissions et on a un grand plaisir de le faire. Alors après, je peux vous dire que voilà, c'est pas qu'un amusement, on travaille aussi, on arrive à rester sérieux quand même pour faire de belles émissions.
Alors j'imagine qu'on reste un enfant quand on découvre ce décor, même si vous avez l'habitude de tourner, c'est un décor magique.
Oui, c'est toujours un décor magique. Quand on rentre sur le fort, on est content d'y rentrer puisque on voit des choses que les gens ne peuvent pas voir. C'est un rêve d'enfant qui se réalise aussi.
Et quand justement Fort Boyard a débarqué à la télé, donc c'était sur Antenne 2 à l'époque, vous étiez tout jeune, hein, puisqu'aujourd'hui vous avez 36 ans, 37 ans.
J'ai 36 ans aujourd'hui.
Et vous regardiez justement l'émission, vous étiez l'un des fans de l'émission.
Ah ben oui, c'est comme ça que j'ai rencontré Passepartout d'ailleurs, parce que j'étais vraiment fan de cette émission. Et quand en fait il y a une assemblée, de personnes de petite taille, et quand j'ai vu Passepartout à cette assemblée, j'ai demandé au président de pouvoir le rencontrer, et c'est lui qui a organisé cette rencontre en fin de compte. C'est comme ça qu'on est devenus amis.
C'est assez agréable d'entendre votre voix, parce que votre personnage, finalement, on ne l'entend pas dans Fort Boyard.
Eh non, c'est très très difficile de ne pas parler. J'ai la chance de travailler avec Olivier Mine et le père Foura, qui sont des personnes très très, très très importantes pour moi dans l'émission, puisque c'est eux qui mettent mon personnage en avant, et mes voix en fin de compte. Quand j'ai envie de faire une petite bêtise, ou quand j'ai envie d'amener Olivier Mine sur un terrain pour que cette bêtise puisse se faire, ils sont très très bons tous les deux en improvisation, et c'est très facile pour moi de pouvoir faire mes bêtises.
C'est voulu en fait, c'est délibéré que vous ne parliez pas, que votre personnage ne parle pas?
Oui, parce que ça a été depuis le départ en fin de compte, ça a été des personnages muets, et ça l'est resté. C'est un bien aussi pour nous, puisque ça nous permet aussi de tourner dans les émissions étrangères, sinon il faudrait parler toutes les langues.
Il y a un côté peut-être un peu cartoonesque, un petit peu dessin animé pour les enfants.
Tout à fait, ça reste un personnage.
Est-ce que vous, personnellement, il y a des épreuves que vous préférez plus que d'autres?
Tout ce qui est animaux, voilà, j'aime bien. Après, j'aime bien aussi relever le défi de goûter les plats de Willy Rovelli. Il n'y a pas que les candidats qui peuvent goûter ces choses atroces, et j'aime bien ressentir voilà, ce que eux ressentent à ce moment-là. Je peux vous dire, c'est pas bon ce qu'il fait.
J'imagine. C'est vraiment pas bon en fait, hein. C'est pas pour de faux.
Non, c'est vraiment pas bon. En fin de compte, c'est pas bon et ça sent très mauvais. Et le fait que ça sente très mauvais, on voit souvent les candidats se boucher le nez, c'est parce que voilà, ça nous donne pas du tout envie de le manger. Ça sent plus mauvais que c'est pas bon. Si un jour vous avez l'opportunité d'ouvrir une boîte de surstreaming, qui est le hareng fermenté en Suède, je peux vous dire, faites-le à l'extérieur, parce que sinon, dans votre maison, ça va sentir très mauvais pendant quelques jours.
Alors du coup, aujourd'hui, je vais donc dire la bienvenue en suédois. Ça donne envie de vomir, ça donne envie de venir. Alors pourquoi la Suède? On va dire, oui, bon, il est bien gentil, lui, pourquoi la Suède? Pour ça. Alors ça, le surstreaming, c'est donc du hareng fermenté. Vous me videz le saladier et vous avez l'indice.
Est-ce que cette épreuve, on la retrouve justement dans les autres émissions, les versions étrangères?
Oui, on tourne cette épreuve avec les Marocains, avec les Africains, et là, on va bientôt le faire avec la Russie.
Est-ce que tous les personnages sont les mêmes, justement, pour les versions étrangères?
Alors non, il y a des personnages qui changent. En Afrique et au Maroc, c'est le père Foura de l'émission qui joue le rôle de Willy Rovelli.
Bon, j'imagine que ce personnage de passe-muraille a changé votre vie.
Complètement, parce que moi j'ai commencé Fort Boyard, je sortais de l'école, j'étais encore à l'école, et j'avais entamé des études de comptabilité informatique, ça a complètement changé ma vie. Maintenant je suis parti dans le milieu du spectacle.
Et l'équipe d'Alouette a tenu elle aussi à souhaiter un bel anniversaire à l'émission Fort Boyard, à sa façon.
Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette qui s'écoute sur alouette.fr et toutes les plateformes de podcast.